Comme je vous l'ai dit ce matin, je vais partager avec vous un message. Un message d'un frère américain qui est encore en vie aujourd'hui. Et juste, je rappelle que souvent les messages, quand je les prépare pour le dimanche, je ne vous cache pas que c'est le vendredi. En général, je dis bien en général que c'est décidé. Le vendredi en fin de journée. Et donc, par rapport à la semaine, vendredi en fin de journée, par rapport au bilan de la semaine, voire le soir même, eh bien, le message est décidé pour dimanche. Et il arrive que le dimanche, un message parlant, qu'à côté, je peux mettre les mots qu'il faut, le message qui existe déjà est plus parlant. Il n'y a pas de règle. C'est ça, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Il peut y avoir une matinée, un dimanche, où on partage juste la parole de Dieu. Pourquoi pas? Il pourrait avoir un matin ou une parole parmi vous qui nous parle, comme ce matin. On n'a pas besoin d'un message, je ne sais pas. Qu'il y a un message, automatiquement Dieu parle. Dieu parle des fois dans le silence. Et bien ce matin, je vais partager avec vous un message qui n'est pas très long, mais qui est de ce frère qui s'appelle Chip Brogden. Comme je dis, il est encore vivant. Et qui a vécu une expérience dans sa vie, ce qu'on appelle de brisement et de résurrection. Dieu l'a amené dans ses limites. Et il a vécu des expériences, parmi les expériences, je dirais, c'est quelqu'un qui était pasteur, qui avait une bonne situation, mais Dieu l'a amené dans ses limites, au point d'avoir tout quitté. Plus rien. Dieu l'a amené dans ses convictions profondes, que ce qu'il enseignait aux autres, mais il ne vivait pas. Il apprenait aux autres ce qu'il faut vivre, et pourtant, quand il se remet devant le Seigneur, que Dieu a touché son cœur, il s'est humilié devant Dieu, il a demandé pardon. Dans son témoignage, il disait, mon Dieu, presque comme, je dirais, dans la cendre, il dit, mais comment pourrais-je avoir passé toutes ces années à être même pasteur de deux églises, à enseigner? Et à aucun moment, je me suis mis à genoux devant Dieu, lui confesser, mon Dieu, ce que j'enseigne, je ne le vis pas. Vous voyez? Il l'a emmené jusque-là. Et il l'a emmené, dit, maintenant, est-ce que tu es capable de tout quitter, là? Il a vécu dans sa vie des difficultés. Ce n'était pas facile au départ, mais épreuve après épreuve après épreuve, il l'a brisé. Et quand il est arrivé devant Dieu, maintenant, je suis perdu, je ne sais plus, je ne suis plus sûr quoi faire. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à lui. Maintenant, nous allons travailler ensemble. C'est un des auteurs les plus christocentriques, je dirais contemporains, vivants que je connais. Chip Brogden. C'est dans le brisement que son enseignement a pu me parler. C'est donc à travers son témoignage que je me suis dit, maintenant je vais le lire. C'est son témoignage qui m'a poussé à lire ses écrits. Et alors aujourd'hui, le titre c'est « Ma mère et mes frères ». C'est le passage que j'ai lu ce matin. « Ma mère et mes frères ». Les deux passages, je les lis. C'est dans Matthieu chapitre 12, versets 46-50. Matthieu 12, 46-50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère. » Voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Et le deuxième passage, je l'ai lu tout à l'heure aussi au début du culte, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors voici son message. Tout à l'heure, j'ai dit, je n'enlèverai pas une seule virgule, je rectifie. J'essaierai de ne pas enlever une virgule. Ceux qui débattent de l'organisation, de l'Église, n'ont pas encore vu l'Ecclésia comme une famille. L'Ecclésia, c'est l'origine du mot grec du mot Église, qui veut dire assemblée. Et de ce fait, leur insistance porte sur la direction correcte de l'Église. Est-ce un pasteur seul ou une pluralité d'anciens qui doivent gérer l'Église? Quelles sont les relations entre les pasteurs, les diacres, les anciens, les évêques? Quelles sont les relations entre les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs? Sont-ils légitimes aujourd'hui? Qu'en est-il des femmes? Peuvent-elles ou non occuper une position dans l'Église? Où sont les limites de l'autorité? À qui sommes-nous supposés nous soumettre? Et ainsi de suite, des questions qui se succèdent. Bien des disputes ont pour objet l'organisation de l'Église. Et qui doit se soumettre à qui? Des millions de gens ont été tués à cause de ces disputes. Et des millions ont été maltraités à travers l'histoire, spirituellement et émotionnellement, quand ce n'est pas physiquement. Ces disputes existent parmi nous depuis plus de 2000 ans et n'ont jamais été résolues pour le bien de tous. La seule façon de résoudre ce genre de disputes concernant l'organisation est de laisser tomber le côté terrestre et d'étreindre la réalité spirituelle. Mais pour beaucoup, et particulièrement ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, c'est simplement trop demander que d'abandonner cela. Certains diront, mais il y a une organisation dans la Bible. Et je répondrai qu'il y a un ordre conforme à l'esprit et la vérité dans la Bible. Mais pas d'organisation concernant la hiérarchie corporative, la bureaucratie ou la dictature bénévole. Toutes ces choses sont des expressions charnelles d'hommes charnels. Elles ne sont pas faites pour l'ecclésia, le mot d'origine qui a donné église. Quand nous aurons réellement vu l'ecclésia, nous ne débattrons plus du tout de ces problèmes. En fait, si nous pouvions réellement voir l'Ecclésia pour ce qu'elle est, réellement, c'est-à-dire une famille, l'Ecclésia, l'Église, une famille, alors nous saurions immédiatement qui est la tête de la famille. Qui sont les anciens? Ce qu'ils sont supposés faire? Qui a l'autorité et qui ne l'a pas? Nous ne serions plus du tout concernés par une structure corporative. Mais nous serions simplement en relation les uns avec les autres comme les membres d'une même famille. L'Ecclésia que Jésus est en train de bâtir est une maison spirituelle constituée de pierres vivantes. Cette Ecclésia est une famille et c'est de Jésus que toute famille sur terre et dans les cieux tire son nom. Éphésiens, chapitre 3, verset 15. Quelle famille? La famille des croyants. Une partie de la famille est dans les cieux, alors qu'une autre partie est sur terre. Dans cette famille, Dieu est le Père et Jésus est le premier-né au milieu de ses frères et sœurs. Romains, chapitre 8, verset 9. Quand nous devenons disciples de Jésus, nous devenons membres d'une famille et non membres d'une organisation. C'est une des différences majeures entre une ecclésia vivante, une église vivante et une église morte. Voilà ce que Jésus essaie de communiquer à la foule dans les deux passages des Écritures que nous avons cités. Dans le premier cas, sa mère et ses frères ont du mal à s'approcher de lui à cause de la foule. Les Écritures disent que Jésus était en train de parler à des multitudes quand quelqu'un a interrompu son enseignement pour lui dire que sa mère et ses frères étaient arrivés et voulaient lui parler. Une personne ordinaire aurait pu être en colère d'avoir été ainsi interrompue, ou se serait excusé auprès de la foule de devoir aller saluer des membres de sa famille. Jésus n'est pas une personne ordinaire. Il est le Fils du Dieu très haut. Il va ainsi leur démontrer, en parole et en action, que quiconque fait la volonté de Dieu est son frère, sa mère et sa sœur. Autrement dit, tous les membres de sa famille sont sur le même plan pour lui. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas de favoritisme. Dans cette famille, il n'a pas de favori. Il n'accorde pas de traitement de faveur. Il n'a pas de frères et de sœurs spéciaux. Tous sont égaux, précieux devant lui. Tous ont la même valeur à ses yeux. Certains peuvent passer du temps à se battre pour savoir qui est le plus grand, une connaissance parmi ses disciples, et rechercher la reconnaissance et la gloire des hommes à travers des titres, des diplômes, des positions ou des dons spirituels. Mais Jésus dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Matthieu, chapitre 20, verset 26. S'il ne fait pas de différence entre frères et sœurs, nous ne devons pas en faire non plus. Dans le second cas, comme dans le premier, Jésus est en train d'enseigner quand quelqu'un l'interrompt. Une femme élève la voix du milieu de la foule et bénit Marie, la mère de Jésus. À nouveau, une personne ordinaire aurait été dérangée par une telle interruption, ou aurait commencé à expliquer à quel point elle aime sa mère. Mais une fois encore, nous voyons la singularité du Seigneur Jésus et nous touchons du doigt la profondeur de sa sagesse et de son caractère. Assurément, Jésus aimait sa mère terrestre. Mais dans le même temps, avec son discernement aiguisé, Jésus percevait que ce débordement d'émotion était purement sentimental. Même si l'intention était de faire un compliment, cela venait de la chair, n'apportait rien à son enseignement et n'aboutissait qu'à détourner les gens de lui-même. En considérant les 2000 ans d'histoire de l'Église qui viennent de s'écouler, nous pouvons voir à quel point cette adulation charnelle de la mère de Jésus détourne les gens de la personne de Jésus lui-même. C'est pourquoi, dans l'intérêt de la foule et dans notre propre intérêt, Jésus apporte dans la douceur une simple correction, incitant à honorer sa mère sans l'idolâtrer. La version King James dit, le frère Chibogden, il donne la version King James, qui dit, « C'est vrai, mais détournez vos yeux du terrestre et tournez-les vers le céleste. Il y a une plus grande bénédiction, et cette bénédiction n'est pas limitée à une femme. » Mais cette bénédiction est accessible et disponible à tous ceux qui le veulent. Comment obtenir cette bénédiction? Selon Jésus, ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent sont bénis. Et ce n'est pas surprenant, puisque tout ce qu'a toujours enseigné Jésus établissait une claire distinction entre les gens qui ne font qu'écouter son enseignement et ceux qui mettent réellement son enseignement en pratique. Bénis sont ceux qui l'entendent et qui le gardent, l'enseignement. Alors que ceux qui l'entendent et ne le mettent pas en pratique bâtissent une maison sur du sable qui s'effondrera dès qu'elle sera confrontée à l'épreuve. La chose principale dans les deux cas est la suivante. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un frère ou une sœur véritable? Et dans les deux cas, la réponse est la même. Accomplir la volonté du Père. Écouter et garder la parole de Dieu. Ces deux choses sont les mêmes. Une simple obéissance, faire ce que veut le Père, pas seulement écouter, mais aussi mettre en pratique. De nos jours, l'Église est remplie d'auditeurs. Si l'on qualifiait quelqu'un de frère ou de sœur sur le simple fait qu'il écoute, alors quasiment tout le monde pourrait l'être. Dans certains milieux, il est fréquent de s'adresser aux uns et aux autres en disant « frère un tel » ou « sœur une telle ». Vraisemblablement, cela signifie que nous faisons tous partie de la même famille et que nous avons le même père. Pourtant, ces mêmes frères et sœurs n'auront jamais aucune communion fraternelle avec quelqu'un n'appartenant pas à leur petit groupe. Leurs critères sont étroits. Fréquenter le même groupe que nous ou rejoignez la même dénomination et nous serons frères et sœurs. Voilà un bon exemple d'écouter ce que Jésus dit, de prêcher même ce que Jésus dit et pourtant échouer dans la mise en pratique de la grande vérité qu'ils affirment croire. Gardez bien à l'esprit de ce qui fait de quelqu'un un membre de cette famille. Ce n'est pas le fait qu'il écoute, ou accepte, ou croit, ou enseigne la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas tout ça. C'est faire la volonté de Dieu. Jésus n'appelait pas toute personne religieuse frère ou sœur. C'était un terme d'affection envers ses vrais disciples. Les vrais disciples prenaient les choses à cœur et les mettaient en pratique. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous persévérez dans ma parole, alors en vérité, vous êtes mes disciples. Si. Qu'en est-il si vous ne persévérez pas dans ma parole? Alors vous n'êtes pas mes disciples. Et vous n'êtes pas mon frère, ma sœur ou ma mère. Pour faire partie de ma famille, vous devez faire la volonté de mon Père, tel est le message du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il des autres? Jésus ne les reconnaissait pas comme des frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même Père. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. L'Évangile de Jean, chapitre 8. Verset 44. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient la loi et les prophètes chaque jour du Shabbat. Mais ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. En fait, ils ne désiraient pas du tout la volonté de Dieu. Ils convoitaient les mêmes choses que leur père. Et c'est pour cela qu'ils étaient attachés au diable et pas au père. Parmi les épreuves et les tribulations les plus dures que Paul ait endurées, il mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 26, il mentionne en péril parmi les faux frères. Il attribue une partie de ses problèmes aux faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Galates, chapitre 2, verset 4. Faux frères, c'est un mot fort, mais c'est ainsi que commencent les faux Christs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs en tant que faux frères. La question que Jésus a posée garde donc encore tout son sens. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? Assurément, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. De la même manière, ceux qui disent « Frère, frère » ne sont pas tous des frères en réalité. Cependant, la première chose que le Seigneur veut nous enseigner est d'apprendre à devenir de bons frères et sœurs. Tout ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral ou d'enseignement doit avoir pour fondation la profondeur et la maturité spirituelle de savoir comment être tout simplement un frère ou une sœur. Nous négligeons cette préparation nécessaire à nos risques et périls. Et c'est pourquoi la famille de Dieu en souffre aujourd'hui. Jésus dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Hébreux, chapitre 2, verset 12. Rien ne fait plus plaisir au cœur du Père et ne donne au Seigneur Jésus plus de raisons de se réjouir que d'être avec ses frères et sœurs au milieu de l'Ecclésia, au milieu de l'Église qu'il est en train de bâtir. S'il se tient au milieu de l'Ecclésia, s'il se tient au milieu de l'Église, alors c'est à cet endroit que je veux être. Que le Seigneur confirme cette parole dans notre cœur, que sa volonté soit faite. Amen. Voilà une lecture qui m'a parlé cette semaine, qui m'a touché au fond de moi-même.